La lisière de la rizière de Mémé, un livre écrit par Anjian Mernaoubine, traduit en français par Rakoutmang Abris Tanul Nirin et paru aux éditions Jeunes Malgaches, lu par Razaf Tsalama Agnès Daniel. Un Bouibarkiel, un village en hauteur, juste un peu au nord de Sambain. Vu depuis la route de l'Est, ne dirait-on pas une petite île ? Entourée de rizières de part et d'autre, sauf du côté ouest. Notre oncle nous avait emmenés, nous, les trois petits gars, pour l'aider à transporter les ruches. Les lieux n'étant pas accessibles aux voitures, nous avions porté les ruches à bout de bras et avions prévu de traverser les rizières à pied. Mais pourquoi vous avez laissé tomber la ruche, les gars ? Dit Tonton, fâché de me voir tomber à terre. Vraiment, je suis sûre que la reine est morte écrasée après tout ça. Mais Tonton, c'est difficile de marcher sur ces lisières. Elles sont si fines et glissantes, et j'ai dérapé. Si les essaims d'abeilles venaient à s'échapper des ruches, nous serions assurément piqués à mort. Faites un détour par là si vous n'arrivez pas à marcher sur les lisières. Tonton montra le sentier pour les charrettes, une montée raide jusqu'au milieu du penchant de la colline, avant de tourner vers l'ouest. La route est 4 fois plus longue que celle traversant directement les rizières pour arriver au village. C'est donc par ce chemin détourné que nous trois avons transporté les 30 ruches. Les ruches étaient lourdes et ne devaient pas être ballottées. Nous avions donc dû escalader 10 fois le chemin escarpé. C'est au retour que nous prenions le raccourci par les rizières, avançant à tâtons comme le ferait un caméléon quand nous passions sur les rizières. Nous avions fini avec le soleil couchant. Nous nous sentions si bien au bord du feu de bois allumé par Mémé, en attendant que les patates douces soient cuites. « Tonton, mais pourquoi, dis-je, ne construirions-nous pas une route pour les voitures, passant directement dans ces rizières ?» Je ne voulais pas revivre la fatigue de cette journée. « Demandez donc à votre grand-mère, » répondit Tonton en se levant et en partant. « J'ai voulu mettre une route auparavant, mais elle m'en a empêché. Ces chères lisières, dont elle ne voulait pas s'en séparer. »« Qu'est-ce que ça veut dire, Mémé ? Il suffirait de combler de terre 1 mètre de chaque côté des parcelles ?» et nous serions sortis d'embarras. Les voitures ou les charrettes arriveraient plus facilement ici. Non, 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 ne dites pas n'importe quoi. Vous ne connaissez pas l'histoire, mes enfants. Raconte-la nous alors, Mémé. Je n'avais que 6 ans en ces temps-là. Partout, l'on entendait les échos des tumultes politiques du 29 mars 1947. Votre grand-mère n'était pas encore très éveillée intellectuellement en ces temps-là, les enfants. Mais je me souviens très bien des discussions des grandes personnes. La rébellion contre les colons aurait éclaté à l'est, de l'autre côté de notre région, dit-on. À Mouramang, à ce qu'il paraît. Pas là uniquement, mais jusqu'à Ndap, Thomasn, Mananzar et d'autres villes aussi. Cette rébellion a duré plusieurs mois. Les Français avaient même fait venir des Sénégalais et des légionnaires étrangers pour pacifier le territoire. Nous étions terrifiés en entendant parler de la mort de dizaines de milliers de personnes, des Malgaches fusillés dans les wagons, jetés dans le vide depuis un avion. Beaucoup d'entre eux sont morts en fuyant, à part ceux qui sont morts au combat. Il y avait des villes entières brûlées, des Malgaches faits prisonniers et qui ont été torturés et noyés dans le pétrole, etc. Mémé ne put retenir ses larmes en nous racontant cela. Nous trois restions silencieux, ne sachant que dire. Elle sortit son mouchoir, s'essuya les larmes et se moucha, puis continua son récit. Les soldats sénégalais sont arrivés jusqu'ici en ces temps-là. Nous, les enfants, avions une peur atroce, car la rumeur disait que les Sénégalais mangeaient les hommes. Ils étaient stationnés en Batmafan. C'est à Sambain, cependant, que les aéroplanes larguaient les matériels et repas destinés à ces militaires. Alors, un de ces jours, ma grand-mère et moi étions en train de récolter du manioc à l'est, en contrebas du village. J'étais la plus jeune des enfants élevés par grand-mère, et elle m'emmenait toujours avec elle. Les autres enfants, un peu plus âgés, étaient chargés de ramasser du bois de cuisson, ou bien allaient au champ. Même si je n'étais qu'une enfant, j'étais prudente et surveillais bien les alentours. J'entendais souvent les autres enfants raconter qu'ils avaient vu les Sénégalais par là. Tant de fois ils s'enfuyaient en courant. Des fois, il n'y avait rien, mais dès que quelqu'un disait « Voilà un Sénégalais !» on ne pouvait retenir personne et chacun prenait ses jambes à son cou. Grand-mère était encore obnubilée par son manioc quand je me suis aperçue que de nombreux Sénégalais couraient depuis le côté est. « Grand-mère, grand-mère, voilà des Sénégalais qui viennent vers nous !»« Où ça ?» dit grand-mère, apeurée. « Nous allons mourir, ma fille, fuyons vite !» Grand-mère laissa la pelle et la soubique et m'a tirée pour fuir avec elle. Comme vous le voyez, les enfants, cette montée menant au village est plutôt raide. Grand-mère avait beaucoup de mal à marcher. Elle était déjà assez faible, car elle avait presque 60 ans et avait eu beaucoup de progéniture. Je la suivais en m'accrochant à sa jupe longue et en cachant mon visage. « des femmes, nous voulons des femmes !» criaient les Sénégalais s'approchant de nous. « Allons-y, ma fille, ne me tire pas, mais partons, nous allons mourir là !» Lorsque nous sommes arrivés un peu en hauteur, j'ai jeté un coup d'œil effrayé vers l'est en contrebas. Les militaires avaient déjà traversé les rizières. Certains étaient tombés, d'autres avaient trébuché, la tête en avant, et quelques-uns ont déjà réussi à traverser. Quelle course ! S'ils n'avaient pas eu de difficulté à marcher sur les lisières, ils nous auraient rattrapés. Essoufflée, grand-mère n'arrivait plus à respirer. Nous sommes quand même arrivés à grimper jusqu'à l'esplanade à l'entrée du village. 5 mètres avant d'arriver à la maison, et 5 mètres également, nous séparaient du premier militaire qui venait nous attraper. Sans conteste, ils allaient nous rattraper. Eux, des militaires, très forts. Grand-mère et moi, une personne affaiblie et une petite enfant. Grand-mère me poussa en pleurant. « Va, mon enfant, fuis et ferme la porte. » Grand-mère était restée pour se sacrifier. Je suis entrée dans le vestibule. J'ai refermé la porte de l'intérieur à l'aide d'une barre en bois. J'ai jeté un coup d'œil au travers d'une petite fente de la porte. Grand-mère se tenait debout, les mains sur la hanche, un petit bout de bois dans la main. Le premier militaire pointait pour monter jusqu'à l'aire de battage. « des femmes, nous voulons des femmes » criait-il. « Je vais te tuer !» répondit grand-mère le menaçant. Surpris, celui-ci l'esquiva, mais il glissa, tomba dans le fossé. Les deux autres militaires qui le suivaient s'arrêtèrent en voyant ce qui était arrivé à leur compagnon. Celui-ci n'était pas tombé dans le fossé, mais avait réussi à s'agripper à une branche du goyavier et était resté accroché là. Ses deux amis l'aidèrent à remonter. Pendant ce temps, grand-mère arriva à la porte et m'appela. « Ouvre la porte, ma fille, ouvre-moi » Grand-mère réussit à entrer. Dès que j'ai fini de placer la barre en bois, des cris s'élevaient dehors. « Ouvrez, ouvrez, nous voulons des femmes, il nous faut des femmes !» Nous sommes montés à l'étage, grand-mère et moi. Nous avons claqué la porte de l'escalier et avons placé le mortier dessus. Grand-mère avait eu le temps de fermer toutes les portes et fenêtres. « J'ai failli mourir, ma fille, j'ai quand même réussi à te sauver, grâce à Dieu !» dit-elle. Grand-mère perdit connaissance. Pendant ce temps, dehors, les militaires criaient et frappaient fort à la porte. Certains avaient grimpé jusqu'à la fenêtre pour la secouer. D'autres donnèrent des coups de pied à la porte, laquelle se brisa. « Où sont les femmes ? Où sont les femmes ?» J'avais la chair de poule. Soudain, la voix de grand-père tonna de derrière. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous attaquez au village, espèce de voyou sans honte ! Sacré nom de Dieu ! Allez, je vous ferai connaître mon nom, tous autant que vous êtes. C'est dans ma maison que tu oses pénétrer. Tu ne connais pas Ramalinzone ?» Les Sénégalais se sont enfuis en courant. Grand-père s'est empressé de monter et appela grand-mère. J'ai réussi à déplacer le mortier bloquant la porte de l'escalier. C'est seulement à cet instant que j'ai pu pleurer en m'accrochant au pantalon de grand-père. Grand-mère a commencé à reprendre ses esprits. « Où est Blonde, Ramal ? Où est-elle ? Viens, ma fille, un grand malheur a failli t'arriver, ma petite fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, mère Rassou ?» Grand-mère n'avait même pas fini de tout raconter que grand-père courut dehors. On entendit 2 explosions. Certains ont dit qu'il avait fait des pétards pour faire peur aux Sénégalais. D'autres étaient catégoriques. Grand-père avait réellement un fusil. Qui sait ? Je regardais par la fenêtre et me tordais de rire en voyant ces militaires sénégalais se démenant pour s'enfuir, trébuchant dans les rizières. « Vous ne savez pas encore ce qui vous attend !» dit grand-père. Dès le lendemain, les Vaza enlevèrent tous les militaires sénégalais des alentours. Mais le territoire ne fut pacifié qu'à la fin de l'année 1948. Grand-père Ramalinzone a donc réussi à mettre les Sénégalais dehors. Mais comment, mémé ? Grand-père était un écrivain-interprète du temps des Vaza. C'était un grand têtu que les Vaza ne maîtrisaient pas. Il répétait souvent « tant que je suis le fils du pasteur Rein Malinzon, moi, Ra Malinzon, aucun Vaza ne me donnera des ordres. Jamais. Ah, son père était donc un pasteur. Nous sommes donc les descendants d'un pasteur. Oui, Rein Malinzon, notre arrière-grand-père, était le premier pasteur de l'église de Saint-Bain. C'était un homme célèbre, mes enfants. C'est lui qui baptisa Razafnjaït, la dernière reine de Madagascar avant la colonisation. Ah bon? Ce n'était pas Ranavalna III la dernière reine? Dis-je. Oui, tu as tout bon, mon petit, c'est bien cela. Mais il faut juste ajouter que Razafnjaït, originaire de Myandananjin, n'est autre que Ranavalna III. Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec ce village qui souffre de ne pas avoir de route, mémé? Justement, c'est pour cela qu'aucune route n'a jamais été construite pour traverser les rizières. Ainsi, les ennemis seront toujours gênés par les lisières des rizières, dit Mémé, pour terminer l'histoire. Parce que tu crois qu'il y aura encore des Sénégalais? Nous trois avons répondu d'une seule voix en rigolant. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu ces lisières des rizières, mais une route? Eh bien, c'est sûr que les Sénégalais avaient eu Mémé et sa grand-mère. Et cela aurait été une honte pour l'histoire, et peut-être que nous n'existerions même pas. Merci donc aux lisières des rizières de Mémé.